France Culture.
Le journal est signé Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, les zones d'ombre qui pèsent sur les élections présidentielles au Cameroun remportées par Paul Biya. Les ressorts du succès du parti du président argentin Javier Milei aux législatives demi-mandat correspondance de Buenos Aires de Caroline Vic. Les musées ne sont ni des bastions ni des coffres-forts. Titre d'une tribune signée par 57 dirigeantes et dirigeants de grandes institutions culturelles qui témoignent dans les colonnes du journal Le Monde de leur solidarité avec les équipes du Louvre 12 jours après le vol de bijoux de la couronne de France. Un procès, celui du cyberharcèlement, qui aurait pour finalité d'intimider celles et ceux qui, sur les réseaux complotistes et proches de l'extrême droite, relaient la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Commentaire du chercheur en communication Arnaud Mercier. Navrant décompte, un consortium d'ONG a dénombré 601 bombes carbone dans le monde. Explication d'Azaïs Perronin. À la fin de cette édition, un dossier que la rédaction consacre à la vie à Clichy-sous-Bois. 20 ans, jour pour jour, après la tragédie, la mort de Zied et Bouna. Témoignage inédit du petit frère de Bouna, Ademou Traoré, recueilli par Sandrine Etoa-Andeg et avec Chloé Le Prince. Des éléments sur la mémoire des luttes dans les quartiers populaires. Un gérontocrate reconduit à la tête d'un régime qui l'a mis sous scellé, j'ai nommé Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982. Le président du Cameroun a, selon les chiffres officiels de la présidentielle, remporté donc ce scrutin avec 53,66% des suffrages contre près d'un tiers des voix pour l'opposant Issa Tiroma Bakary. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Nathanaël, Issa Tiroma Bakary qui ce soir qualifie le scrutin de mascarade.
Ah oui, c'était prévisible. Vous savez, Issa Tiroma rejette le résultat de l'élection. Dans une déclaration à l'agence France Presse, il parle en effet de mascarade et maintient que l'opposition a gagné de manière indubitable. Des propos qui vont dans le sens de ceux qu'il avait tenus 48 heures après le vote, dans lesquels il expliquait avoir remporté l'élection avec près de 55% des voix. Issa Tiroma, qui se trouve actuellement chez lui, dans le nord du pays, déplore également des morts qui viendraient s'ajouter aux 4 décès signalés hier en marge de première manifestation. Le Cameroun pourrait vivre dans les heures et les jours à venir des moments difficiles, si l'on en croit l'opposant, puisque des snipers seraient postés sur les toits de sa ville et devant sa résidence. Des blindés circulent également dans les rues. Il faut savoir que le pouvoir a interdit les rassemblements dans le pays. Pour l'heure, la menace la plus préoccupante concerne donc le nord du Cameroun, fief d'Issa Tiroma, même si des manifestations semblent se dérouler ailleurs dans le pays, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Eh bien, police et gendarmerie sont visibles un petit peu partout dans la ville.
Paul Biya réélu et pour l'instant, Nathanaël, on ne se précipite pas pour le féliciter.
Oui, pour l'instant, pas la moindre réaction. C'est comme si tout le monde s'était donné le mot d'attendre. Le seul commentaire vient de l'ONU qui appelle à la retenue. Mais sinon, silence de l'Union africaine, silence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, centrale auquel appartient le Cameroun, silence de ses voisins proches, silence de la France. C'est comme si tout le monde attendait de voir comment évolue la situation avant de se prononcer. C'est le moment en tout cas où le président Biya va pouvoir compter ses vrais amis et visiblement pour l'instant, ils ne sont plus très nombreux.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier en Côte d'Ivoire. Victoire attendue, sans surprise, là encore, mais dans une toute autre configuration d'Alassane Ouattara qui, à 84 ans, se dirige vers un quatrième mandat. Résultat définitif en soirée. 4 adversaires étaient toutefois en lice, mais aucun n'a de chance d'arriver à un second tour, faute de soutien d'un grand parti ou de moyens financiers importants. Des centaines de milliers de civils piégés par des combats à El Fasher, au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ville assiégée depuis 18 mois que se disputent les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre depuis avril 2023. El Fasher, ville affamée et coupée du monde. L'armée russe revendique la prise de 3 villages dans le sud-est de l'Ukraine où elle gagne du terrain malgré de lourdes pertes. Le peso argentin et la bourse de Buenos Aires accueillent très favorablement le succès du parti du président aux législatives d'hier. 40% des suffrages pour le camp de l'ultralibéral Javier Milei, 35% des voix pour la gauche. Succès à la faveur d'un fort taux d'abstention et aux dépens d'une opposition qui n'aura pas su charpenter un programme économique séduisant. Javier Milei a désormais les moyens de tenir ses promesses. Caroline Vic nous appelle de Buenos Aires.
À la Chambre des députés, La Liberté avance. Le parti de Javier Milei passe de 37 à 101 sièges. Au Sénat, les libertariens étaient 6, ils seront maintenant 20. En termes de sièges, la gauche argentine est tout de même plus nombreuse, mais la droite modérée ou les petits partis alternatifs de centre-droite pourraient devenir les alliés de Javier Milei. Plus d'ajustements, plus de dérégulation économique, réformes fiscales et réformes du travail, entre autres. Ce sont les chantiers pour ces prochains mois au Congrès. Hier, dans son discours, le président argentin s'est tourné vers l'opposition de droite pour leur proposer de négocier et d'arriver à un accord. Ainsi, avec de nouveaux alliés, il pourrait non seulement faire passer ses projets de loi, mais aussi gouverner par décret ou par veto présidentiel sans une grande résistance. La victoire de Milei implique aussi le versement des 20 milliards de dollars du Trésor américain pour que le gouvernement puisse rembourser les dettes de ses créanciers en 2026. Donald Trump avait promis cet argent seulement si le libertarien gagnait les élections. C'est chose faite. Javier Milei a dorénavant toutes les cartes en main. Une aide financière sans précédent du FMI et du Trésor américain et la confiance renouvelée des Argentins. Le président n'a plus d'excuses, il a maintenant 2 ans jusqu'à l'élection présidentielle pour prouver l'efficacité de ses politiques.
Un témoignage de solidarité de Paris à New York en passant par Mexico. Plusieurs dizaines de directeurs des plus grandes institutions culturelles au monde affichent leur soutien au musée du Louvre dans une tribune parue aujourd'hui dans le journal Le Monde. Ils sont 57 dirigeants du monde de la culture à s'émouvoir du cambriolage commis le 19 octobre dernier dans le musée le plus visité au monde. Les musées ne sont ni des bastions ni des coffres-forts, écrivent les signataires, parmi lesquels le directeur du British Museum à Londres, celui du Metropolitan Museum of Art. Émilie Girard est présidente de France du Conseil international des musées.
L'important était de pouvoir manifester le soutien des professionnels du musée, aux équipes du musée du Louvre, à la direction, mais aussi aux équipes d'agents de surveillance qui sont sur place au quotidien, aux équipes de sécurité et à sa présidente Laurence Descartes, qui a vécu quelque chose qui est susceptible de nous arriver à tous. Dans cette tribune, il y a aussi la volonté de faire entendre la voix des professionnels, qui n'a pas été très forte depuis ce cambriolage, pour redire quel est notre souci, pour dire qu'on est évidemment conscient de ces problèmes de sécurité, qu'on ne fait pas rien, et ça je crois qu'il faut vraiment le redire, parce que peut-être qu'on a pu laisser entendre dans les médias ces derniers jours qu'on était passif, qu'on attendait, c'est pas vrai. Je crois que ça, il faut vraiment le redire avec force. On est tous conscients qu'il faut sécuriser nos lieux, on le fait d'ailleurs du mieux que nous pouvons, mais nous sommes dans une sorte d'injonction contradictoire, c'est-à-dire à la fois sécuriser nos collections, les conserver, qui est notre mission première, mais aussi les diffuser et les montrer. Et les montrer, c'est prendre un risque qu'on minimise le plus possible avec tous les moyens qui sont les nôtres, mais qui n'est pas zéro quand on montre des collections. Et ça, je crois que c'était vraiment important pour nous de pouvoir le redire.
Émilie Girard, présidente de France du Conseil international des musées avec Jeanne Serrin. Ouverture ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris du procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron. Depuis 4 ans, une rumeur persiste. La première dame serait un homme porté en France par des milieux complotistes liés à l'extrême droite. Cette théorie du complot a même traversé l'Atlantique, amplifiée par l'influenceuse pro-Trump Candace Owens. Face à cette désinformation, Emmanuel et Brigitte Macron ont décidé de contre-attaquer sur le plan judiciaire. 10 personnes sont renvoyées devant le tribunal, des personnalités en vue de la complosphère, mais aussi des citoyens lambda. Le commentaire d'Arnaud Mercier, professeur de communication à l'Université Paris Panthéon Assas.
Un tel jugement a pour objet d'intimider définitivement tous ceux qui relaient complaisamment ce genre de rumeurs malveillantes, en leur faisant valoir que ça a un coût de relayer ces propos diffamatoires, un coût en termes de procès, de condamnation sans doute à des amendes, voire à de la peine de prison avec sursis. Enfin bref, la loi sur la presse de 1881, extrêmement protectrice de la liberté d'expression, a prévu dès le début des limites à cette liberté d'expression dès lors qu'il y a diffamation, par exemple, ou diffusion de fausses nouvelles. Nous sommes typiquement dans un cas de diffamation. À partir du moment où les victimes de cette malveillance diffamatoire se rebellent et font valoir leurs droits, effectivement, des gens tombent de l'armoire, alors que c'est simplement la limite prévue par la loi depuis plus d'un siècle, et ça doit donner normalement du plomb dans le crâne de ceux qui continuent complaisamment à véhiculer ce type de rumeurs.
Arnaud Mercier, professeur de communication avec Delphine Schlitz. 10 ans après l'accord de Paris, l'industrie fossile bat son plein. Le nombre de bombes carbone, ces projets d'extraction de combustibles fossiles à grande échelle, continuent d'augmenter. Ils sont désormais 601 dans le monde. C'est ce que révèle un consortium d'associations Data for Good, Reclaim Finance, Lingo et Éclairci. Azaïs Pirona, bonsoir.
Bonsoir.
Azaïs, en 2021, l'agence internationale de l'AIEA, l'agence internationale de l'Élysée, appelait pourtant à ne plus approuver aucune exploitation supplémentaire. Depuis, de nouveaux projets ne cessent d'être lancés.
Oui, 2 ans après leur premier recensement, ces ONG ont trouvé 176 nouvelles bombes carbone, portant leur nom total donc à 601 dans le monde. Les projets d'une taille moindre se multiplient aussi, 2300 nouveaux projets d'extraction approuvés. De quoi épuiser le budget carbone restant pour respecter l'accord de Paris, selon Louis-Maxence Delaporte de l'ONG Reclaim Finance.
Tous ensemble, ces bombes carbone et ces nouveaux projets d'extraction, ils nous emmènent dans le mur. Si on les développe, on va exploser le budget carbone restant. C'est-à-dire que si on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré, on ne devrait émettre que 130 gigatonnes de CO2. Avec tous ces nouveaux projets, on va émettre 1400 gigatonnes de CO2, soit 11 fois le budget carbone restant.
Les ONG répertorient aussi les acteurs impliqués dans ces projets fossiles, au premier rang desquels on trouve des banques européennes et des entreprises européennes comme Shell au Royaume-Uni, Eni en Italie et Total Energy en France.
Eh bien, cette fois,
ces entreprises européennes, elles sont vraiment présentes partout dans le monde. Elles vont développer des projets en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Par exemple, Total Energy est derrière des projets en Ouganda, comme le chantier Lenga qui fait partie du projet ICOP. Donc, ces entreprises ont une vraie responsabilité dans le développement des énergies fossiles et dans l'enfermement de ces pays vers une trajectoire fossile, puisque des pays comme l'Ouganda, aujourd'hui, ont peu d'extraction pétrolière et gazière. Et avec Total Energy, ils vont pouvoir en extraire une grande partie pour l'exporter.
Total Energy vient d'ailleurs de relancer un autre méga-projet gazier en Afrique, au Mozambique, 4 ans après son arrêt à la suite d'une attaque djihadiste meurtrière. Une reprise qui pourrait ouvrir la voie à d'autres acteurs du secteur fossile et faire du Mozambique, à l'avenir, l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz.
Merci Azaïs Perronin. Il est 18h12, vous écoutez le journal de France Culture. Un arbre a été planté aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, dans le silence du recueillement. 20 ans, jour pour jour après la mort dans cette ville des adolescents Zied Bena et Bouna Traoré, qui avaient déclenché 3 semaines d'émeutes urbaines à travers le pays. Une centaine de personnes se sont réunies autour d'un Jiko Biloba, choisi comme symbole de résilience, planté devant le collège où les 2 adolescents étaient scolarisés. Et 20 ans après, la douleur du petit frère de Bouna, Ademou Traoré, 32 ans, est toujours là. Aujourd'hui engagé pour sa ville de Clichy-sous-Bois, où il est revenu vivre après l'avoir quitté au lendemain du drame, il s'est confié au micro de Sandrine Etohandeg.
La passion pour le football d'Ademou Traoré a été une bouée de sauvetage. Au bord d'un terrain, aujourd'hui éducateur.
J'ai entraîné, mais là j'entraîne plus. Je suis passé responsable du foot à 11.
Il raconte qu'il a failli sombrer après ce 27 octobre 2005, jour où il apprend le décès de Bouna, 15 ans.
J'étais perdu.
Ce frère aîné dont il partageait la chambre et qu'il admirait, mort électrocuté, comme son copain Zied Bena, après une course-poursuite avec la police.
Je ne sais même pas quoi faire, quoi penser, j'y croyais même pas. La nuit, le jour, tu dis « Ah, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui ». Et c'est petit à petit que tu te rends compte, il ne fait plus partie de cette vie. Donc c'est un sentiment un peu difficile à décrire, quoi.
Il se souvient de la douleur de sa famille et de la solidarité des habitants. Ses parents, originaires de Mauritanie, vivent toujours à Clichy-sous-Bois.
C'est les images en bas du quartier, c'est ce rassemblement, ces cris, ces pleurs, ces voix. Le mot deuil, je ne sais pas, c'est un mot qu'on a sorti du dictionnaire, mais pour les gens qui le vivent, on ne peut pas être en deuil. Mais on fait malgré ça.
Qu'est-ce que vous continuez encore aujourd'hui à garder de lui?
Franchement, son sourire, son état d'esprit, sa gentillesse, même si ça fait 20 ans, ça restera toujours un modèle. Il est toujours dans mes pensées et ça reste une force pour moi aujourd'hui.
En se remémorant les images de sa ville qui s'embrase, Ademou Traoré confie ne plus ressentir de haine 20 ans après.
Je ne vais pas vous mentir, c'était étrange, parce qu'on n'a jamais vécu ce genre de choses. Oui, la casse, mais je pense que c'est de la colère. Et voilà, ça a permis aussi de faire comprendre que nous aussi, on est des humains, quoi. On n'est pas des déchets. Je pense que tout cliché, On avait tous la même pensée, tous la même tristesse et tous la même colère. La police, on la voit tous les jours et tout le temps. Qu'il soit bien ou pas bien, tu as écrit police derrière ta veste. Pour moi, tu fais partie de cette famille-là. Donc, le fait que je sois parti de cette ville, que je puisse fréquenter d'autres personnes avec d'autres visions, ça m'a aidé à voir les choses autrement et à placer cette colère-là dans quelque chose de positif, qui est le football, tout simplement.
Après avoir embrassé une carrière de footballeur professionnel, il est revenu il y a quelques années vivre à Clichy, qu'il avait quitté à 14 ans, et jongle aujourd'hui entre son food truck,
les hot dogs un peu revisités, gourmets,
et son engagement auprès des plus jeunes.
C'est important quand même de redonner ce qu'on a pu recevoir dans cette ville. Si je peux conseiller, je conseille. Si je peux être là pour eux, je suis là pour eux.
Mais malgré son optimisme, Ademou est inquiet pour cette jeunesse.
C'est un autre monde. Il y a les réseaux. Avec la police, ça reste encore très difficile. Surtout avec tous les événements qu'il y a pu avoir.
Pensez à Naël, à Nanterre, été 2023.
C'est ça, moi, je pense à Adama, je pense à Naël. Il y a beaucoup à faire. C'est un nouveau combat.
Pour que le feu ne brûle pas à nouveau.
Sandrine Etohandeg, ce retour à Clichy-sous-Bois, c'est l'occasion de nous interroger sur la mémoire des luttes dans les quartiers populaires. Chloé Leprince, à la suite des travaux du sociologue Samir Hadj-Belghassem, vous avez fouillé dans de nombreuses archives pour retracer la manière dont les luttes successives dans ces quartiers populaires, dans les banlieues, dialoguent dans le temps, car cette mémoire est un enjeu en soi depuis 20 ans.
Oui, l'an dernier, au printemps, l'Assemblée des quartiers tentait d'éclore avec un slogan « Exister collectivement, s'engager politiquement ». Après plusieurs tentatives plus ou moins avortées, c'était un chantier de 2 ans pour s'investir en politique, avec des listes autonomes pour les municipales 2026, pour fédérer les acteurs dans les quartiers et pour, je cite, « transmettre l'histoire des luttes sociales ». Et sur les réseaux, l'Assemblée des quartiers a tenté de mobiliser en postant de nombreuses références à ces luttes passées dans les quartiers populaires. Et par exemple, des archives du MIB, le Mouvement de l'immigration et des banlieues, qui durera une dizaine d'années et qui était né en 1995. Et parmi les protagonistes de l'Assemblée des quartiers l'année dernière, eh bien on trouvait Mohamed Mechmache, qu'on a découvert en 2005 au moment des émeutes avec le collectif Assez le Feu, et qui, dans la foulée, avait fait un tour de France pour remplir des cahiers de doléances. Ou encore Salah Amokrane, de Tactique Collectif et Motivé, né à Toulouse avant les émeutes de 2005, mais qui s'était remobilisé après les semaines de soulèvement pour créer un forum social des quartiers populaires. Salah Amokrane.
Le forum social des quartiers, c'est l'histoire d'une convergence de différents mouvements dans différentes régions de France autour d'une idée simple, c'est de dégager un espace politique autonome qui permette l'expression des habitants des quartiers et qui puisse réellement faire en sorte qu'un certain nombre de sujets qui ne sont pas ou qui ne sont pas traités de la manière dont on pourrait le souhaiter le soient.
À l'époque, on était juste après les émeutes et il y avait déjà un enjeu politique à transmettre l'histoire et la mémoire des luttes.
Politiser la révolte, encastrer le soulèvement des quartiers dans une histoire longue des luttes, c'est justement ce qu'avaient cherché à faire les acteurs dans les quartiers il y a 20 ans, dans la foulée immédiate des émeutes de 2005, pour lutter contre l'amnésie, disait-il, et déjà sortir 2005 de l'histoire de la délinquance, ramener l'événement dans le temps long de la protestation citoyenne, de la protestation contre les injustices, les discriminations, la relégation.
Chloé, vous avez plongé dans les archives sonores et vidéos du Forum social des quartiers populaires, et vous y avez trouvé cette histoire imbriquée des mouvements sociaux et des émeutes, et une mémoire incarnée.
Né après les émeutes en 2006, le Forum social des quartiers populaires mobilisait déjà de nombreuses références à une histoire longue. Rémi Sidjatou est un ancien du MTA, le mouvement des travailleurs arabes, né en 1972. Lui aussi contribuait au Forum social des quartiers populaires.
C'était une immigration qui était considérée par le système économique français comme une immigration provisoire, qui vient à la limite donner sa force de travail. On la récompense juste au minimum pour qu'elle reconstitue sa force de travail, parce qu'on avait besoin d'elle pour être le lendemain au fond des mines à charbon ou sur les chaînes de montage ou sur les chantiers.
Pour conclure le tout premier Forum social des quartiers populaires en 2007 après les émeutes, au micro c'était Pierre Didier Tchétché APA.
Le Forum social des quartiers populaires nous a permis de démontrer que nos quartiers ne sont pas des déserts politiques.
Originaire de Vaux-en-Velin, près de Lyon, il disait « venir des émeutes de 90 », après la mort de Thomas Clodio, assassiné par la police.
Le Forum social des quartiers populaires a mis aussi en évidence que nous ne sommes pas d'accord sur tout. D'ailleurs, pourquoi le serions-nous plus que d'autres ? Par contre, Au-delà des divergences, une identité politique commune est possible et repérable. Elle est formulée de manière différente, elle s'exprime dans des pratiques militantes également différentes, elle est éparpillée, mais elle existe.
Ainsi se referme ce dossier dédié à la mémoire des luttes dans les quartiers populaires. Merci Chloé Leprince. L'ouragan Mélissa a été élevé ce matin à la catégorie maximale dans les Caraïbes, menaçant notamment la Jamaïque, Haïti ainsi que la République dominicaine de vents destructeurs et d'inondations catastrophiques dans les 48 heures à venir. Enfin, quelques mots de la météo de demain en France métropolitaine sur une moitié nord. La matinée se déroule sous un ciel encore très nuageux et des pluies sont assez fréquentes sur le quart nord-est ainsi que près de la Manche. 18h20, ce journal a été préparé avec Brice Garcia,